Chapitre 4, le No Man's Land. Tous ceux qui, comme Martial, ont eu la chance de revenir indemnes des héroïques tueries de la Grande Guerre, en ont conservé une bravoure et une audace qu'il est difficile de mettre en défaut. Au bout d'une heure de marche, notre héros ne pensait presque plus à Chalito, qui n'avait pourtant quitté qu'avec un véritable chagrin. Son imagination se perdait en suppositions plus fantastiques les unes que les autres sur cette mystérieuse vallée qui avait été sans doute le tombeau de l'ingénieur Wilcox. En y réfléchissant, ce qui le surprenait plus que tout le reste, c'est l'étrange mutisme auquel il s'était heurté chaque fois qu'il avait voulu obtenir un renseignement précis. On eût dit que, sans s'être donné le mot, ceux auxquels il s'était adressé avaient ourdi contre lui une véritable conspiration du silence. Peut-être, après tout, songea-t-il, ne trouverai-je là rien d'extraordinaire. D'ailleurs, je touche au but demain, au plus tard je serai fixé. Tout en s'abandonnant à ses rêveries, il avait continué à cheminer lentement sur l'immense plateau où les cactus, maintenant devenaient plus rares, cédaient la place à des blocs de rochers, à des bancs de galets, puis à des monticules de sable qui, chauffés à blanc, reflétaient cruellement les rayons ardents du soleil. La chaleur était si grande que des couches d'air surchauffées semblaient miroiter au fond de l'horizon. Les mules, sur ce sol brûlant, qui cédait parfois sous leurs pas, et qui ressemblait à des cendres à peine refroidies, souffraient terriblement. Elles hahanaient, baissaient la tête, l'oreille tombante, l'œil morne, et Martial était souvent obligé de les prendre par la bride pour les aider à franchir les passages difficiles. La nuit les surprit au milieu de cette ingrate région. Martial commençait à ressentir ce serrement de cœur, cette indicible et secrète angoisse que connaissent bien tous ceux qui, pour la première fois, se sont trouvés seuls en plein désert. Le soleil qui, dans ces régions, n'offre pas les longs et splendides couchants de nos pays tempérés, disparut en quelques minutes. Ce fut la nuit, brusquement fraîche, presque froide, faisant ruisseler sur les pierres surchauffées les gouttes d'une rosée abondante comme une pluie. Dans le silence écrasant, Martial n'entendait que la plainte monotone du Pacifique lointain et les cris funèbres de quelques aigles et de quelques vautours qui regagnaient les cimes de la Sierra. Tout brave qu'il fût, il frissonna. « Mais pourquoi cet imbécile de Chalito n'a-t-il pas voulu m'accompagner ?» grommela-t-il avec mauvaise humeur. « Pourquoi aussi n'ai-je pas accepté la proposition de Frontenac ?» Il se sentait découragé, perdu dans l'immensité, écrasé par ce silence d'où semblaient monter mille voix assourdies et insinuantes. Martial n'était pas homme à rester longtemps sous le coup de cette déprimante impression. « Allons, dit-il, je suis pourtant pas une poule mouillée. Il s'agit seulement de camper tant bien que mal et de dormir une bonne nuit, pour être demain tout à fait d'aplomb. » Il déchargea les mules, déposa son bagage dans l'abri formé par deux roches. Il alla cueillir assez loin de son point de départ de juteuses raquettes de cactus, dont les bêtes de somme sont très friandes. Puis il songea à lui-même, mais Chalito n'était plus là pour lui allumer du feu et donner à son repas un semblant de confortable. Il ouvrit une boîte de corned beef et but quelques gorgées d'une outre encore à demi pleine, mais l'eau, puisée pourtant quelques heures auparavant à la sauce du ravin, était tiède et gardait un affreux relent de cuir. Il trouva au corned beef un goût atroce, et il ne put s'empêcher de se remémorer l'anecdote racontée par l'auteur des Empoisonneurs de Chicago. Le nègre, tombé dans l'appareil de broyage de viande et transformé lui-même en conserve, La dame anglaise, retrouvant un ongle du pauvre diable dans un pâté et restant évanouie, tout le scandale qu'avait fait cette effroyable histoire, montrant sous son vrai jour l'abominable avidité de certains spéculateurs américains. Il rejeta avec dégoût ce qui restait dans la boîte de conserve, se roula dans son manteau et s'endormit. Comme chaque soir, brisé par les fatigues d'un climat auquel il n'était pas accoutumé, il ne fit qu'un somme. La fraîcheur de la rosée matinale le réveilla. Il s'étira en bâillant, jeta autour de lui le regard vague et lourd de l'homme brusquement arraché à ses rêves et à son repos. Mais tout à coup, il eut un cri de frayeur et de surprise. Ses deux mulets, tout son bagage avaient disparu. Il en restait l'autre trace qu'un petit tas de raquettes épineuses à demi rongées. Martial fut d'abord plus surpris qu'effrayé. Qu'on eût pu le suivre à la piste, dans ce désert inhospitalier, voilà ce qu'il ne s'expliquait pas. Il ne lui venait pas non plus à la pensée que Chalitot eût été capable de le trahir. La façon dont il avait été dépouillé demeurait pour lui inexplicable. Il frémit en songeant que rien n'eût été plus facile à ce qu'il avait volé que de l'assassiner pendant son sommeil, et il ne comprenait pas pour quelle raison il avait été épargné. « Mais quand même de la chance, murmura-t-il. C'est un miracle que je n'ai pas été tué. » Puis il se demanda avec une certaine anxiété si ce vol dont il venait d'être victime n'était pas une première offensive des fantastiques habitants de la vallée du désespoir. C'est un avertissement très clair, songea-t-il. On veut sans doute me faire entendre que je ne dois pas aller plus loin. À un moment donné, il faillit s'y résoudre. Il reviendrait jusqu'à l'endroit où il avait laissé Frontenac et cette fois prierait celui-ci de l'accompagner. Il était très perplexe. Puis il réfléchit qu'il touchait au but de son voyage et qu'il perdrait un temps précieux en allant à la recherche du prospecteur. Enfin, la vanité s'en mêla. Il eût été vexé d'avoir recours à l'ami dont il avait dédaigné l'offre généreuse. « Tant pis, conclut-il, je suis presque arrivé à destination, j'irai jusqu'au bout. Voyons maintenant ce qui me reste. C'est hélas pas grand-chose. » Il était encore en possession d'un Browning, d'une provision de cartouches, d'un couteau solide et d'un peu de tabac. Il trouva aussi la boîte de poudre d'or que Frontenac lui avait donnée, mais il eût volontiers cédé pour une outre remplie d'eau ou pour quelques boîtes de conserve. La perte qui lui fut le plus sensible fut celle de sa boussole, qu'il avait serrée la veille dans le petit nécessaire qui contenait ses objets de toilette et qui avait disparu avec le reste du bagage. En furetant sur le sol, il trouva encore un flacon de chloroforme. Ce flacon faisait partie d'une boîte de pharmacie assez complète qu'il avait achetée à Mexico et qui avait elle aussi disparu. Le pharmacien qui la lui avait vendue, trompé par sa qualité d'explorateur, lui avait même recommandé l'emploi du puissant anesthésique pour la capture de certains gros insectes. Martial supposa que ces voleurs avaient par curiosité ouvert la pharmacie et, dans leur précipitation, n'avaient laissé tomber la fiole qu'ils venaient de ramasser à demi enfoncée dans le sable. Il la mit dans sa poche sans trop savoir à quoi elle pourrait lui servir. De nouvelles hésitations l'assaillirent. Il se demanda s'il ne serait pas plus sage de sa part de revenir sur ses pas. Mais Chanito lui avait indiqué si clairement la route à suivre, en prenant pour point de repère deux pics que leur forme bizarre ne permettait pas de confondre avec les autres, qu'il lui parut impossible de s'égarer. Sans boussole, réfléchit-il, il me serait plus difficile de retrouver Frontenac que d'atteindre la vallée dont je ne suis plus éloigné que de quelques milles. Ce dernier argument l'emporta. Martial se mit courageusement en route, bien qu'il fût loin d'avoir l'entrain dont il était animé 2 jours auparavant. Après avoir repéré les deux pics de la Sierra qui devaient l'empêcher de s'écarter de la bonne voie, il commença à marcher d'un bon pas, en se promettant de prendre du repos dès que la chaleur viendrait à l'incommoder. Pendant 1 heure, tout alla bien, quoique le terrain très accidenté, semé d'énormes blocs qu'il lui fallait contourner, l'obligea à des zigzags continuels, mais au bout de ce temps, les premières atteintes de la faim et de la soif se firent sentir. Il s'efforça de réagir, mais à mesure qu'il avançait, ses souffrances augmentaient. Son estomac criait famine, et il éprouvait dans l'arrière-gorge une sensation de sécheresse brûlante. Enfin, son cœur battait à grands coups, et de sourds bourdonnements faisaient retentir à ses oreilles comme un bruit lointain de cloche. Il tint bon encore 1 heure, mais en dépit du feutre à large bord dont il était coiffé, le soleil le brûlait de ses rayons presque verticaux, et il était à bout de souffle. Il comprit qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Il fit halte près d'un maigre cactus, le premier qu'il eût aperçu depuis le matin. Avec la patience dont il avait vu Chanito faire preuve en pareille circonstance, il se mit à débarrasser avec son couteau les petites figues violettes de leur piquant, plus fin que les plus fines aiguilles. Si peu réconfortante que fût cette nourriture, elle lui fit le plus grand bien, et il mangea tous les fruits dont était chargée la plante épineuse, même ceux qui étaient encore verts et à peine noués. S'il n'était pas restauré, du moins, il était désaltéré. Pourtant, il ne pouvait songer à se remettre en route avant que la grosse chaleur fût tombée. Il s'étendit à l'ombre d'un monticule de sable et fit la sieste. Il rêva qu'on lui faisait griller les pieds sur des charbons ardents. Des formes imprécises qui n'avaient pas de visage se penchaient vers lui avec des gestes cruels et parlaient d'une voix très basse dans un langage qu'il ne comprenait pas. Il se réveilla en portant la main à ses yeux où il ressentait un douloureux picotement. Pendant son sommeil, le soleil s'était déplacé et ses rayons le frappaient directement. C'était là l'explication du cauchemar qu'il venait d'avoir. Il était baigné de sueur. Il se releva en chancelant, étourdi comme un homme ivre. Il fit quelques pas. Il avait l'impression que les monticules de sable, les rocs couleur de sang et dans le lointain les pics bleuâtres de la Sierra dansaient autour de lui. « Bon, ce ne sera rien !» dit-il tout haut. Il dut se rasseoir quelques minutes à l'ombre d'un autre rocher. Il tremblait d'avoir attrapé une insolation qui, sous ce climat, eût été mortelle, et il comprenait alors l'avertissement que lui avait donné son ami de Frontenac en lui prédisant les souffrances qu'il attendait quand il serait pour de vrai entré dans le désert, dans le réel No Man's Land. Oh, si seulement Chanito était là, se disait-il, lui qui veillait sur moi pendant mon sommeil et qui silencieusement et sans se faire valoir aplanissait pour moi toutes les difficultés, m'évitait toutes les souffrances que je dois endurer dans ce désert. Et il ne put s'empêcher de réfléchir que si le métis si brave et si dévoué avait refusé de l'accompagner dans la vallée du désespoir, c'est que véritablement il fallait qu'il y eût là d'extraordinaires dangers à courir. Et il se souvenait d'une phrase de Chanito. Quel est l'homme qui peut se vanter de connaître tous les mystères de la Sierra? Martial n'était pas de ceux qui s'abandonnent longtemps au découragement. Il fit effort pour lutter contre cette espèce d'horreur sacrée que lui inspirait la solitude. « Est-ce que je vais devenir poltron ?» murmura-t-il en s'efforçant de sourire. « J'en ai vu bien d'autres pourtant pendant la Grande Guerre. Quand j'ai promis à Rosie de me rendre dans la vallée du désespoir, pour savoir ce qu'est devenu son père, je savais pourtant bien que ce ne serait pas une promenade précisément agréable. Allez, alors en route !» Martial se releva, complètement guéri de sa faiblesse passagère. Il s'orienta et se remit en chemin, bien décidé à faire preuve du plus grand sang-froid et à ne s'étonner de rien. Il avançait avec une lenteur voulue. Chaque fois qu'il rencontrait un cactus, il en cueillait les figues et remplissait une de ses poches en prévision du repas du soir. Il était attentif à tout, et il espérait que le hasard lui ferait rencontrer un de ces lézards ziganes qui ressemblent à des bêtes de l'Apocalypse, mais dont la chair est si délectable. Il ne rencontra rien. Au contraire, la région, à mesure qu'il marchait, paraissait plus désolée et plus ingrate. Les cactus eux-mêmes avaient disparu. Il n'apercevait plus un seul serpent rouge. C'était à travers un désert de pierres et de sable qu'il cheminait péniblement. Il songea à ces paysages de rêve qu'ont décrit les poètes et les fumeurs d'opium, et où il n'existe ni eau, ni plantes, ni bêtes. C'était une de ces perspectives comme il n'en avait vu que dans les albums de photographies astronomiques où se déploient les montagnes et les ravines désolées de la Lune, la planète sans vie et sans atmosphère. Il lui semblait que ses amis, sa fiancée, les villes où il y avait des hommes, étaient à une distance incommensurable de lui, à des dizaines de siècles en arrière, peut-être. Peu à peu, son cœur se serrait sous le coup d'une angoisse inconnue. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la frayeur. Il savait qu'il n'avait à craindre ni les bêtes féroces, ni les bandits, et que même peut-être, quitte à revenir sur ses pas, il ne mourrait pas de faim. Mais il croyait deviner que dans ce silence désolé, des forces muettes et terribles l'entouraient et qu'il était entre les mains de ces puissances inconnues. En proie à ces pensées obsédantes, Martial ne s'était pas aperçu que le chemin qu'il suivait allait continuellement en pente. C'était comme un immense plateau qui finissait par se diviser en 100 ravines, qui dévalaient en une cavalcade de galets et de pierrailles vers la base de la cordillère. À un moment donné, Martial leva les yeux pour vérifier la situation des deux pics qui lui servaient de jalons. Il ne les aperçut plus. Il s'était trop rapproché du pied de la montagne. Il avait négligé certaines recommandations de Chanito, et maintenant, il ne savait plus où il se trouvait. Il était perdu dans le désert, et il comprenait que c'était là une chose terrible. Il se demanda s'il ne ferait pas mieux de revenir sur ses pas, mais une voix intérieure lui criait qu'il était trop tard. C'était la veille qu'il lui fallut prendre cette décision, se mettre à la recherche de Frontenac, quitte à perdre plusieurs jours pour le retrouver. Il essaya pourtant de voir s'il ne pourrait pas regagner le petit vallon ombragé de beaux arbres où il s'était séparé le chaniteau. Malheureusement, sur le sol pierreux qu'il avait parcouru depuis plusieurs heures, ses pas n'avaient pas laissé la moindre trace. Les rocs et les monceaux de pierre, les bancs de galets granitiques se ressemblaient tous. Retrouver le chemin qu'il avait suivi, il lui était aussi facile d'essayer de suivre la piste des grands vautours blancs qui passaient à des hauteurs inaccessibles. Machinalement, il appuya un instant sa main sur un bloc de porphyre. Il la retira vivement, la pierre était brûlante. La chaleur du soleil, réverbérée par la surface miroitante des rocs, montait à ses narines en bouffées suffocantes. Il sentait littéralement l'odeur du granit, comme les ouvriers fondeurs discernent au seul flair l'arôme rêche du fer, amer du cuivre, douceâtre de l'aluminium et de l'argent, et le noble parfum de l'or. Il ne savait plus depuis combien de temps il marchait, et il se demandait ce qu'il deviendrait quand la nuit viendrait à tomber. Puis il commençait à éprouver de la fatigue. Déjà, comme tous ceux qui habitent la solitude, il éprouvait le besoin de penser tout haut, comme s'il se fût adressé à des interlocuteurs invisibles. « Du courage, dit-il, c'est pas le moment de se laisser aller. Je vais manger la poignée de figues que j'ai dans ma poche et me remettre en route. » Le bruit de ces paroles, que répercutaient des échos très lointains, l'épouvanta. Il lui sembla que des voix ironiques se moquaient de son malheur, mais il réagit promptement. Il se souvint de certains épisodes de la guerre où, dans la rafale des obus, sa vie avait été mille fois plus exposée qu'elle ne l'était en ce moment. Il s'efforça de réfléchir avec calme. Avec beaucoup de patience, il décortiqua ses figues, les mangea et repartit dans la direction qu'il supposait la bonne. La région où il continuait de « progresser » entre guillemets devenait horriblement tourmentée. À certains endroits, il lui fallait descendre au bas de véritables falaises qu'un ravin séparait d'autres falaises aussi escarpées qu'il lui fallait gravir ou contourner, et il était mouillé de sueur des pieds à la tête. Tout à coup, il se trouva sur un sentier qui paraissait très praticable, et avec un bonheur inouï, il découvrit sur le sable rouge les traces qui avaient laissé des fers de chevaux ou de mulets. « Allons, se dit-il, voilà qui est bon. Ce sentier conduit bien quelque part. J'ai bien fait de ne pas perdre courage. Je serais mort de soif et de faim au milieu de ces cailloux qu'on dirait chauffés à blanc. » Cette fois, il continua son chemin presque gaiement. Il n'était plus l'homme désespéré et perdu dans le désert. Grâce à ce sentier providentiel, il était redevenu le voyageur qui s'est quelque peu détourné de son chemin, mais qui le retrouvera facilement. Plein de confiance, il marcha ainsi pendant un quart d'heure, et tout à coup, il se trouva en présence d'un squelette dont les ossements d'un blanc d'ivoire avaient été admirablement nettoyés par les vautours. Il s'arrêta pour réfléchir. Il se pencha vers le squelette dont les dents restées intactes semblaient grimacer un sourire, et il constata que le crâne était troué de deux balles. De vêtements, il n'y avait pas trace. « Quelque pauvre diable assassiné par les bandits !» se prit-il à dire. Il demeura pensif en face de cette lamentable dépouille qui avait dû appartenir à un homme jeune et énergique. Il hésitait. Littéralement, ce squelette lui barrait le passage. Il demeura ainsi 5 longues minutes, mais elle ne s'était pas écoulée qu'il s'aperçut que le soleil déclinait brusquement. Quelques minutes encore, et ce fut la nuit complète, la nuit tout à coup glaciale après les torrides ardeurs du jour. Martial frissonna. Ce squelette ne lui était-il pas un avertissement de ne pas aller plus avant ? Il avait été profondément impressionné. Il n'était plus maître de son système nerveux, surexcité par toutes les péripéties qui s'étaient succédées pendant ces dernières journées. Il devenait superstitieux, sans vouloir se l'avouer à lui-même. « Je ne continuerai pas dans cette direction, » décida-t-il. « Le bon sens le plus vulgaire m'indique que s'il y a des habitations, c'est en remontant le sentier que je les trouverai, et non pas autrement. » Ce dont il ne voulait pas convenir en lui-même, c'est qu'il éprouvait une répugnance invincible à franchir cette carcasse blanchie jetée en travers de sa route. « Et pourtant, s'avouait-il, quelque chose me dit que c'est ce sentier seul qui peut me conduire à la vallée du désespoir. » Il rebroussa chemin et se mit à marcher à grands pas, sans oser regarder derrière lui. Des étoiles étincelantes dans un ciel admirablement pur, il tombait une lumière très douce. Il faisait aussi clair que par une matinée d'hiver, sous le pâle soleil du nord. Martial avait maintenant ses vêtements tout tremblés de rosée, et il respirait avec bonheur cette fraîche atmosphère sans même s'apercevoir que ses mains étaient brûlantes et qu'il tremblait de fièvre. Il marcha silencieusement pendant une demi-heure, et il n'osait toujours pas se retourner. Il lui semblait que, s'il eût fait, il eût trouvé à quelques pas en arrière le squelette d'une blancheur d'ivoire de l'homme assassiné. Mais bientôt, d'autres préoccupations d'une nature plus précise le délivrèrent de cette obsession qu'il attribuait à la faiblesse de ses nerfs. Le sentier qu'il suivait aboutit brusquement à un plateau rocheux où il se perdit sans que Martial pût en retrouver la moindre trace. Le sol était comme dallé de larges plaques de schiste sur lesquelles des caravanes entières auraient pu passer sans laisser le moindre vestige. Martial, que le désespoir commençait à gagner, se remit à errer à l'aventure, examinant tantôt les pics bleus de la Sierra qui semblait reculer indéfiniment devant lui, tantôt les blocs de rochers qui, plus près des aspects fantomatiques, affectaient des silhouettes de spectres goguenards. « Allons, » murmura-t-il de temps en temps, « un peu de courage. C'est le moment d'avoir du cran. » Dès lors, il avança au hasard, la tête perdue, les pieds endoloris par la longue marche qu'il venait de fournir et les reins cassés. Il mourait d'envie de se jeter au pied d'un roc et de dormir, mais une sorte de fièvre, mêlée de peur aussi, le tenait debout et le forçait à aller de l'avant. Le bruit de ses pas résonnait dans le grand silence que troublait seul le vagissement lointain du Pacifique ou le cri funèbre d'un oiseau de nuit. Cette plaine aride qu'il traversait semblait se prolonger à l'infini, avec ses blocs aux formes confuses dont la foule semblait le suivre et le précéder, et qui étaient comme des moines en prière, comme des morts drapés de leur linceul ou comme de gigantesques et fantastiques animaux. Il allait céder à la fatigue et au découragement lorsque, tout à coup, très bas sur l'horizon, une petite tache de lumière apparut, d'une lumière rougeâtre et terne, qui ne ressemblait en rien à l'éclatante splendeur des étoiles. Il ne put s'empêcher de se comparer au héros du conte qui avait bercé son enfance, au petit Pousset, lorsqu'il découvre la demeure de l'ogre. Ce n'est sans doute pas un ogre, songea-t-il, qui a établi son repère dans cette solitude. C'est plus que probablement d'affreux bandits dans le genre de ce Bernardino que mon fidèle Chanito a si magistralement abattu. N'importe, tout vaut mieux que d'errer, comme je le fais depuis plus d'une journée. Et courageusement, il se remit en chemin vers cette mystérieuse petite lueur, sans se dire qu'il allait peut-être au-devant de périls nouveaux et plus redoutables. Chapitre 5. L'Hacienda. À mesure que Martial marchait dans la direction de la petite lumière qui tremblotait au bas de l'horizon, la route lui devenait plus facile. Le terrain continuait à descendre, et il comprit qu'il était sans doute à l'entrée de ces vallées fertiles qui s'abritent comme des nids verdoyants entre les contreforts escarpés de la montagne. S'il avait obliqué un peu plus vers la gauche, dans la longue marche qu'il venait de faire, il se fût certainement évité les tortures de la faim et de la soif qu'il avait endurées. Dans un suprême sursaut d'énergie, il marcha 2 heures, les regards toujours fixés vers cette chétive petite lumière d'où il attendait le salut. Le terrain pierreux avait tout à coup fait place à une herbe rare et maigre où poussaient çà et là quelques arbustes, et dans le lointain, Martial crut entendre le mugissement des bœufs et le hennissement des chevaux. « Moi, je ne suis certainement pas loin d'une hacienda !» songea-t-il avec un frémissement de joie. Et pour un moment, il ne sentit plus la douleur que lui causaient ses pieds meurtris et ses reins endoloris. L'herbe se faisait plus épaisse, quelques arbres apparaissaient, mais la petite lueur qui servait à Martial d'étoile polaire ne semblait guère plus proche qu'au moment où, 2 heures auparavant, il l'avait aperçu pour la première fois. Tout à coup, elle s'éteignit. Notre aventurier eut un moment de désespoir. Cette malchance l'accompagnait. Il était tellement découragé qu'il se jeta dans l'herbe mouillée de rosée et y demeura étendu, décidé à dormir là, sans tenter aucun autre effort. L'excitation nerveuse qu'il avait fait jusque-là à marcher avec courage était tombée en même temps que l'espoir de trouver bientôt un peu de nourriture et un endroit où se reposer. Il était aussi courbaturé dans toute sa personne que s'il eût été moulu de coups de bâton, et ses yeux se fermaient malgré lui. Il se laissait aller, il renonçait à lutter. Déjà, il s'endormait vaincu quand le mugissement lointain qu'il avait déjà entendu une première fois parvint à lui dans le silence de la nuit claire et il vit là comme une sorte d'avertissement providentiel. Il se releva en faisant appel à toute son énergie, et passant la main sur les touffes d'herbe dont l'eau ruisselait comme après une pluie, il s'humecta le front et les tempes de cette rosée glaciale. « Je suis stupide, murmura-t-il, en dormant dans cette herbe mouillée, je vais attraper les fièvres, alors qu'il y a une hacienda à 2 pas d'ici. Allons en route, il faut vaincre ou mourir. Il se releva en boitant, et sous la radieuse clarté de la lune, qui rendait les moindres objets aussi visibles qu'en plein jour, il étudia le terrain. Puisqu'il y avait des bestiaux, ils avaient dû venir paître cette herbe épaisse, et ils devaient avoir laissé des traces. En les suivant, ils ne manqueraient pas d'arriver à l'hacienda. Ce raisonnement se trouva juste. Il atteignit un endroit où le sol était piétiné, et il n'eut plus qu'à suivre l'empreinte des sabots pour se trouver en face d'une haute palissade, derrière laquelle il apercevait quelques bâtiments d'aspect misérable et qui lui parurent construits de boue desséchée avec une toiture en feuilles de palmier. « Oh, enfin tout de même, j'y suis !» murmura-t-il avec un soupir de soulagement. Il fit le tour de la palissade pour trouver une entrée, mais déjà des chiens aboyaient. En même temps, des lumières allaient et venaient dans l'intérieur. Il était arrivé à une barrière de claire-voie faite de solides poutrelles. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était maintenue intérieurement par de grosses barres de bois. Et il entendit de l'autre côté le craquement sec d'une carabine qu'on arme. « Au large !» cria une voix en mauvais espagnol. « Nous n'ouvrons à personne pendant la nuit !» C'est alors que Martial se ressouvint des conseils de Chanito. « Je suis seul et sans armes !» s'écria-t-il d'une voix forte. « Je meurs de sommeil et de faim, et si je vous demande l'hospitalité, je suis en mesure de la payer convenablement !» Avec la rapidité de pensée que donnent quelquefois les situations désespérées, Martial s'était dit que si on mettait tant de difficultés pour lui ouvrir, c'est qu'il était tombé chez Don Eljean. Dans un repaire de bandits, on l'eût tout de suite laissé entrer pour le dépouiller plus aisément. « Attends un instant !» reprit une voix. Il y eut des chuchotements, comme le bruit d'une discussion à voix basse, de l'autre côté de la barrière. Les habitants de l'hacienda se consultaient. 10 minutes s'écoulèrent. Martial commençait à s'impatienter, à trouver que ses préliminaires traînaient en longueur. Enfin, une face basanée apparut à travers le grillage. C'était celle d'un Indien au teint cuivré, dont les cheveux d'un noir bleuâtre, aussi rêches et aussi durs que des crins de cheval, étaient tressés en petites nattes qui s'échappaient de dessous un feutre à large bord en pain de sucre, orné d'une profusion de vieux galons dorés. L'homme jeta sur Martial un regard perçant, puis à la grande surprise du jeune homme, il lui dit tout à coup « Montre ce que tu as là, attaché autour du cou !» Martial se rapprocha et mit en pleine lumière l'amulette représentant un dieu à tête de crocodile que lui avait prêté Chanito. Aussitôt, les manières de cet hôte peu accueillant se modifièrent du tout au tout. Ce fut d'une voix presque aimable qu'il reprit « Tu es seul? Tu n'as pas de mauvaises intentions? Bon, je ne veux que dormir et manger, répliqua Martial avec énergie. Et utilisant une formule qu'il tenait de Chanito, oui ou non, suis-je ton hôte? Tu es mon hôte, répondit l'Indien après une minute de réflexion. Tous les voyageurs ont remarqué que les Indiens, à quelque race qu'ils appartiennent, ne prennent jamais une décision à la légère. Ils mettront parfois un quart d'heure à se résoudre à une chose toute simple, mais une fois leur résolution prise, ils vont jusqu'au bout sans que rien puisse les faire changer d'avis. La barrière s'était ouverte, et sitôt que Martial l'eut franchie, elle fut presque simultanément barricadée de nouveau. À la lueur d'une torche de bois résineux, il aperçut une cour intérieure d'aspect sale et misérable, encombrée de tas d'ordures. Il se trouvait entouré de plusieurs Indiens, tous vêtus à peu près de la même façon, d'une longue blouse de coton nouée à la ceinture et d'un caleçon qui leur venait à peine aux genoux. Ils avaient pour coiffure de vieux feutres ou des chapeaux en fibre de palmier. À l'attention avec laquelle il le dévisageait, le jeune homme comprit que son arrivée dans cette pauvre ferme du désert était pour ses habitants un grand événement. Tous le regardaient avec une singulière curiosité, et deux jeunes filles de 13 à 14 ans apparurent à la porte de l'hacienda et contemplèrent l'étranger avec un effarement plein d'admiration. Martial commençait à se rassurer. Évidemment, il n'était pas tombé dans un repaire de bandits. Il avait la chance, en ce pays du Mexique où abondent les communistes, où les bolcheviks se livrent à une propagande intense, d'avoir rencontré une famille d'Indiens isolés du reste du monde et en retard de quelque 200 ans sur les idées courantes. Tout de suite, il fut fixé, en apercevant dans la pièce basse où il pénétra une madone au teint cuivré, dont le cou était entouré de colliers faits avec des baies aux couleurs éclatantes, de petits coquillages et des morceaux de verre. À côté de cette icône domestique se trouvait un cierge venu sans doute d'une ville lointaine et que l'on ne devait allumer que dans les grandes circonstances. Cet intérieur était nu et désolé. Des nattes de feuilles de maïs ou de fibres de latanier, des poteries grossières, quelques escabeaux en formaient l'ameublement. Suivant les rites de la politesse indienne, on donna à manger et à boire à Martial sans lui adresser aucune question. Une des jeunes filles qu'il avait d'abord aperçue et qui ne paraissait nullement intimidée de ses vêtements sommaires ranima le feu qui couvait sous la cendre, fit griller des lanières de viande séchée et fit cuire sur une plaque de fer des tortillas de maïs. Une autre apporta une cruche pleine de pulque, cette espèce de vin que l'on retire de l'agave et qui est spécial au Mexique. L'agave est une plante grasse qui atteint plusieurs mètres de circonférence. Quand on se figure un gigantesque artichaut, quand la plante a atteint une douzaine d'années, on coupe la tige, on creuse un trou au centre, et ce trou se remplit en moins de 24 heures d'une liqueur épaisse et sucrée qui, en fermentant, donne le pulque que les Mexicains comparent au meilleur vin, mais qui en réalité possède un goût d'herbage très persistant et se rapproche beaucoup plus du cidre que de toute autre boisson. Néanmoins, le pulque est très enivrant. Martial en absorba avec plaisir plusieurs lampées. Il dévora les tortillas et la viande séchée, et ce repas, qu'en toute autre circonstance il eût trouvé détestable, lui parut délicieux. Une fois rassasié, il tombait littéralement de sommeil. Ses hôtes le conduisirent jusqu'à un réduit où se trouvait un grand tas de paille de maïs sur lequel un vieux manteau était étendu en guise de couverture. Il était si fatigué que sitôt qu'il se fut allongé sur cette couche rustique, sans même s'être déshabillé, il s'endormit d'une façon instantanée et pour ainsi dire foudroyante. Il ne fut tiré de ce sommeil accablant que par les beuglements des vaches dont il n'était séparé que par une mince cloison. Il se leva, calme et dispos. Il secoua joyeusement les brins de paille qui s'étaient attachés à ses vêtements et à ses cheveux. Il faisait grand jour. D'un coup d'œil, il se rendit compte de l'endroit où il se trouvait. À une des extrémités de la cour, un enclos entouré de palissades, un corral, enfermait une vingtaine de bestiaux à demi sauvages, auxquels déjà un jeune indien ouvrait la barrière pour les laisser aller trouver leur pâture en liberté. Généralement, les animaux errent à leur gré dans la savane sans que leur maître s'en préoccupe, quelquefois pendant des mois entiers. Mais la situation de la ferme aux frontières du désert infestée de brigands avait nécessité des précautions spéciales. Les bestiaux, qui d'ailleurs ne pouvaient sortir de l'étroite vallée où la ferme était construite, étaient ramenés chaque soir au corral que gardait une dizaine de chiens féroces. Martial entra dans la pièce où il avait soupé la veille et qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher, et il y trouva les deux petites indiennes déjà occupées, l'une à écraser le maïs avec une primitive meule de pierre, l'autre à faire cuire les tortillas. Une matrone à cheveux blancs les surveillait, vêtue d'une chemise de coton qui lui venait à peine aux genoux, mais parée en guise de collier d'un chapelet de corail dont la croix d'argent pendait sur sa poitrine et dont elle semblait très fière. Toutes trois saluèrent le jeune homme en leur mauvais espagnol et lui demandèrent s'il avait bien dormi et s'il voulait déjeuner. Martial, qui se sentait presque aussi affamé que la veille, accepta cette offre avec empressement. Il remarqua que pendant qu'il mangeait, les trois indiennes regardaient avec une singulière curiosité, une curiosité où il y avait du respect, l'amulette qu'il portait au cou, et du fond de son cœur, il bénit l'honnête Chalito qu'il avait pourvu de cette espèce de talisman. Il terminait ce repas lorsque le chef de famille, le même qui la veille lui avait permis d'entrer dans la tienda, apparut au seuil de la porte. Martial salua son hôte, le remercia et apprit de lui qu'il se nommait Coyotepec, qu'il était de l'antique race tascalienne et qu'il habitait ce vallon perdu depuis une trentaine d'années. Ces renseignements que Coyotepec donnait sur son propre compte étaient une façon courtoise de faire comprendre à Martial qu'il devait lui aussi dire ce qu'il était, d'où il venait et où il allait. Je suis à la recherche d'un de mes parents, un prospecteur dont on est sans nouvelles depuis 2 ans et qui doit se trouver dans une vallée proche d'ici. Et il raconta comment il avait été dépouillé de ses bagages et de ses armes, et comment il s'était égaré. Ce que je voudrais de toi, conclut-il, c'est que tu me vendes un cheval ou un mulet et assez de vivres pour continuer mon chemin pendant quelques jours. L'Indien demeura silencieux 5 longues minutes, puis tout à coup, « Qui t'a donné le talisman que tu portes au cou ?» demanda-t-il, en fixant avec des prunelles ardentes la figurine de terre cuite. « Vends-la-moi ! Tu auras un mulet et des provisions. »« Mais cela m'est impossible. Ce talisman ne m'appartient pas. Je dois le rendre d'ici une huitaine à mon ami Chanito, qui me l'a prêté pour une expédition dangereuse. » « C'est bien, » répondit Coyotepec, sans montrer la déception qu'il éprouvait. « Moi aussi, je suis un ami de Chanito, qui est venu bien des fois s'asseoir à mon foyer. » Et il ajouta, avec un orgueilleux sourire, « Chanito est un des descendants de nos anciens caciques. » L'Indien paraissait animé des meilleures dispositions, et après une longue et minutieuse discussion, il fut convenu que, moyennant 150 piastres, il céderait un mulet et assez de vivres pour passer une semaine. Quand il s'agit du paiement, Martial tira de son portefeuille quelques banknotes dont il s'était pourvu un mois auparavant dans un grand établissement financier de Mexico. Mais, à la vue de ces papiers, Coyotepec leva les bras dans un geste de mépris et d'horreur. « Le marché est rompu !» déclara-t-il, en se contenant à grand-peine. « Je ne donne pas ce qui m'appartient en échange de feuilles de papier. Tu me dis que tu es un ami de Chalito, et tu m'offres des images comme Bernardillo, qui m'a volé 2 chevaux et 4 bœufs. » Et Coyotepec alluma une cigare de tabac à moitié vert, roulée à la main, et qu'il avait dû fabriquer lui-même, et se retira d'un air indigné à quelques pas de son hôte.